RMC, Tour de France 2016.
Troisième étape aujourd'hui entre Granville et Angers. Georges Quirino, vous êtes sur la moto RMC, toujours un Français seul devant.
Exactement, il s'agit de Armindo Fonseca, le coureur français de la formation Fortuneo Vital Concept, parti dès les premiers kilomètres, parti depuis 3 heures maintenant donc de Granville, et on passe à peine le cap des 100 kilomètres sur les 223 au programme. Armindo Fonseca donc dans un raid solitaire, il a compté plus de 11 minutes d'avance et il n'en a désormais plus que 3 minutes 30 secondes, le dernier pointage avec le peloton qui s'est réveillé derrière. Les équipes de sprinteurs ne vont pas tarder à se mettre en route sur cette étape de plat, donc promise à une arrivée massive. Donc le peloton qui prend son temps aujourd'hui, 33 km 700 de moyenne, 33 km/h 700 de moyenne depuis le départ de cette étape. Donc le peloton qui récupère des forces après deux premières journées un peu mouvementées. Il reste encore 123 km à parcourir.
Georges Quirino en direct de la route du Tour de France sur la moto RMC. Il n'y aura pas une université d'été du PS, mais plusieurs. La direction du Parti Socialiste craint un climat de violence à Nantes fin août. Le parti va donc organiser plusieurs universités régionales et tout au long du mois de septembre. Manuel Valls dit non aux nationalistes corses. La langue corse n'aura pas le statut de langue co-officielle avec le français. Le Premier ministre a également expliqué devant l'Assemblée de Corse que le statut de résident n'était pas non plus à l'ordre du jour. Le procès de Serge Dassault s'est ouvert tout à l'heure à Paris. Le sénateur Les Républicains de 91 ans est absent de l'audience. Il est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale. L'industriel aurait caché 31 millions d'euros dans 4 comptes de fondations et des sociétés aux îles Vierges, au Luxembourg et au Liechtenstein. Premier hommage à Michel Rocard. Les habitants de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines observent une minute de silence à 20h en mémoire de leur ancien maire. Un hommage national lui sera rendu jeudi aux Invalides à Paris. Les courses hippiques, c'est à Maison Lafitte. Aujourd'hui, on fait un point avec Frédéric Zermati.
Bonjour à tous, avec l'arrivée de la cinquième épreuve du programme et la victoire pour un outsider, le numéro 10, Cash in Mind, qui s'impose de haut de lutte à 37 contre 1 devant le favori de l'épreuve, le 2, Nashila, qui était à 3 euros environ. Troisième place pour le 5, Divin Léon, d'une louable régularité. Quatrième place pour le 8, Zambozo. Et la cinquième pour le 6, Amiens, qui complète la bonne formule de ce pick 5. Dans la quatrième course, victoire là aussi de haute lutte pour le 7, Come Alive, qui s'impose d'une courte tête qui a rapporté gagnant 2,70€ et qui est venu à bout au terme d'une belle lutte du numéro 1, Midweek, qui prend la deuxième place. Troisième place pour le numéro 5, Rien que pour toi. Et puis le rappel de l'arrivée du quintet, il y avait un long partant le 10, 16, 3, 11, 6 et 8 qui rapportent dans l'ordre pour 2€, 26 974,20€.
Merci Frédéric. 15h03, vous êtes bien sur RMC, l'heure de l'Intégral Tour avec Christophe Cessieux.
Et toute l'équipe, effectivement, Pierre, l'Intégral Tour qui débute dans un instant pour cette troisième étape du Tour de France. On est encore à 120 km de l'arrivée à Angers, donc on va avoir plein de choses à vous raconter jusqu'à 18h, l'Intégral Tour, évidemment. Après, bien, ce sera le retour du foot. À tout de suite.
RMC, 15h-18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, la route du Tour de France. Nous avons quitté la Normandie, direction les Pays de la Loire, direction le Grand Sud, évidemment, pour ce Tour de France après trois jours passés en Normandie, malheureusement sous les nuages. Bon, on n'est pas encore au grand beau fixe ici sur la route du Tour, mais ça s'améliore singulièrement pour les coureurs, puisqu'il ne pleut plus aujourd'hui et qu'ils vont donc pouvoir profiter enfin d'un peu de chaleur et de température un peu meilleure, un peu plus clémente que ces jours derniers. Troisième étape donc du Tour de France entre Granville et Angers. C'est l'une des étapes les plus longues de cette grande boucle 2016. 223 500 km, c'est long, c'est très long. Et les coureurs en profitent d'ailleurs aujourd'hui pour prendre un peu de repos, parce qu'on ne peut pas dire que le rythme soit particulièrement virulent aujourd'hui sur les routes du Tour. On va saluer toute l'équipe, évidemment, qui a pris place à mes côtés. On va commencer par notre druide, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. C'est lui le plus vieux, donc on le salue. Il est avec nous dans sa petite cabane là-haut. Salut Cyril.
Oui, bonjour Christophe, le plus vieux te salue. Tu es respectueusement quand même.
Ben oui, mais c'est surtout nous qui sommes respectueux, mon cher druide.
Je veux surtout souhaiter un bonjour à tous nos auditeurs et fidèles auditeurs.
Exactement, ils sont là, on l'espère, tous ensemble pour écouter l'Intégral Tour. Autre consultant vedette. Alors hier, j'ai dit dans un
petit dîner que mon consultant vedette, c'était Cyril Guimard, mais c'était le privilège de l'âge.
Je l'ai pas bien pris, je l'ai pas
oui,
bien pris.
Oui, il était vexé comme un pou. C'est Jérôme Pinault, évidemment, qui nous accompagne depuis quelques jours. Mais tu vas voir, tu...
Ah, mais au palmarès, je m'incline, hein. Cyril est la vedette.
Tu n'as jamais porté le maillot jaune, toi,
jamais. J'ai des t-shirts jaunes à la maison, mais le maillot du tour, jamais.
Ça va, Jérôme, en pleine
Ça
forme?
Ça va, très bien. Bonjour à toutes et à tous.
Et puis, évidemment, Fred Adam est avec nous. Journée particulière, on vous en parlera tout à l'heure pour Frédéric, évidemment. Salut Fred.
Bonjour à tous.
Ça va? Tu te sens un peu plus...
Léger?
Ouais, léger.
Tout va bien, merci. Merci de vous être renseigné.
Très bien. Dans un instant, on va faire le point sur la course, mais enfin, on a tout le temps. On a 3 heures avant l'arrivée, puisque, a priori, vu le rythme engagé par les coureurs du peloton, cette étape ne devrait pas s'achever avant 18h, à moins que cela s'accélère dans les minutes qui viennent. Mais enfin, ça n'en prend pas le chemin. Georges Quirino, justement, sur la moto, est à l'avant de la course. Non, c'est pas l'heure de faire la sieste, Georges. Salut.
Bonjour à tous.
Ah, il a failli s'endormir derrière Marco. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Georges? Ça pédale pas ou quoi?
Ah. Non, aujourd'hui le peloton après deux premières journées on va dire un peu mouvementées avec la pluie, le vent du côté de la Normandie, aujourd'hui le peloton a décidé de rouler très tranquillement 33 km/h de moyenne depuis le départ de cette étape il y a 3 heures, donc on va arriver tranquillement peu après 18h, hein, peut-être Christophe, il va falloir pousser un peu l'émission. En revanche il fait un petit peu plus chaud, un petit peu, 22 degrés aujourd'hui sur la route du Tour, mais le fond de l'air est toujours un petit peu frais. On n'a pas encore retrouvé notre température du mois de juillet. Il y a certains Tours de France où on était en short et en t-shirt à cette époque. Là, on est toujours bien couvert quand même pour cette troisième étape du Tour de France et qui a quitté la Manche il y a quelques instants. On est rentré dans le département d'Ille-et-Vilaine.
Voilà, on nous annonce des températures en hausse dans les jours qui viennent avec même peut-être un début de petite canicule. Bon, ce ne sera pas la canicule de l'an dernier, mais il fera un peu plus chaud dans les jours à venir et Fred Adam pourra arrêter de faire sécher ses chaussettes au-dessus de notre tête.
Mettre ses tongs légendaires.
Voilà, mais il a mis les tongs. Justement, Fred, c'est à toi d'agir puisque c'est l'heure du premier top course de la journée. C'est parti.
Et nous sommes sur la troisième étape du Tour entre Granville et Angers, la capitale du Maine-et-Loire. Une étape marathon, pas la plus longue de cette édition 2016 du Tour de France. 223,5 km au menu. On traverse 4 départements avant d'arriver à Angers. Et aujourd'hui, c'est une vraie, une pure, une dure étape de transition en ce 4 juillet avec un seul homme en tête échappé depuis le premier kilomètre. C'est un Français, breton même, originaire de Rennes en Ille-et-Vilaine. Il pédale en ce moment sur ses routes d'entraînement. On est à 115 km de l'arrivée et Armindo Fonseca, le Rennais donc de l'équipe Fortuneo, compte 3 minutes 30 d'avance sur un peloton qui flâne. On contrôle l'échappée. 33,7 km de moyenne sur les 3 premières heures de course. C'est lentissime, on devrait arriver au-delà de 18h. Aujourd'hui, on a décidé de regarder le paysage et de récupérer beaucoup de sourires à l'avant du peloton. On se croirait sur les Champs-Élysées, jour de la dernière étape du Tour.
Alors, comment on explique cette lenteur, Jérôme, aujourd'hui? C'est vrai que les deux premiers jours ont été assez nerveux, notamment l'étape d'hier. Est-ce que les coureurs ont déjà besoin de récupérer avant, évidemment, les grandes échéances qui approchent dans ce Tour de France? Comment on décide de rouler piano sur les routes du Tour? Comment ça se passe? C'est quand on voit un coureur échapper comme ça devant, on se dit lui il est peinard, on va le laisser se consumer tranquillement pendant quelques heures.
Oui, là c'est piano. On a laissé partir Fonseca tout seul.
Da Fonseca, il est pas
ouais,
sur
c'est
le,
pas
il
le même,
pas
c'est pas tour, le même. Il est pas là au départ.
Non, il est pas là.
Non, tout simplement parce que il y a pas de vent annoncé sur la route du Tour. Il y a une difficulté que les coureurs ont passé, la côte de Villedieu-les-Poêles dans le tout première partie de cette étape. Et puis derrière, il n'y a pas de danger. Un seul homme en tête. On sait qu'en s'organisant très bien, ça va venir très très vite sur lui. Pas forcément de la fatigue depuis 2 jours, mais plutôt, je pense, en prévision de ce qui attend les coureurs, notamment demain, puis après-demain vers le Lioran, et puis surtout cette dernière partie du Tour de France qui est difficile. Donc aucun intérêt pour les équipes de rouler plus vite. Il n'y a pas de danger avec les échappés, pas de danger venu du climat. Il pleut pas, il fait pas froid, il n'y a pas de vent. Donc pourquoi ne pas profiter de ces magnifiques paysages de l'Ille-et-Vilaine et prendre son temps pour arriver ici à Angers?
Ouais, c'est le genre de, d'étape qui te plaisait, ça, quand ça roule tranquillou, ou alors on a envie quand même d'arriver tôt, de pouvoir prendre son temps à l'hôtel le soir pour récupérer. Comment les coureurs envisagent ce genre d'étape de transition, étape en bois aussi, on peut les appeler comme ça?
Ouais, non, c'est pas les étapes qui me plaisaient, loin de là. Et on a vu les certaines déclarations du maillot jaune Peter Sagan dire je me suis ennuyé à propos de l'étape du premier jour, et c'est vrai qu'à la fin moi je m'ennuyais beaucoup sur ce genre d'étape. C'est long, il faut quand même penser à manger et à boire, mais il n'y a pas d'action, on s'ennuie vraiment. Et comme tu le dis, Christophe, c'est des étapes en bois, on a juste hâte que ça mette en route. Moi je me souviens quand j'étais équipier de Cavendish à l'Omega Pharma, j'aimais bien qu'on me dise faut aller rouler tout de suite, et en général on laissait 3, 4, 5 coureurs partir pour contrôler derrière, contrôler à haute vitesse, parce que le danger de ces étapes là c'est que tout le monde va être frais sur le final, tout le monde va vouloir se mêler à l'emballage final, puisque finalement bah, on a les jambes, on se dit tiens aujourd'hui je suis bien, et ça rend la course encore plus nerveuse et plus dangereuse, et sur le final ultra rapide. Donc on n'aimait pas trop ça quand on était coureur, surtout quand on n'est pas ni sprinter ni grimpeur, on est plutôt dans les roues, et il faut trouver des copains pour papoter, parce que c'est long, c'est très très long.
Ça discute d'ailleurs, hein, ça discute sérieusement dans le peloton. Hein.
Ah là ça discute, puis je peux vous dire que là on est en train de monter des plans, le monde va changer demain dans le peloton, hein. On est en train de refaire le monde pour beaucoup, là, c'est très long.
Alors Cyril Guimard, c'est vrai que dans d'autres sports, on tente d'accélérer un peu le mouvement, c'est le cas par exemple dans les matchs de tennis, où on essaye de raccourcir la durée des matchs, mais dans le vélo, c'est un peu compliqué, hein, quand on a des étapes de transition, quand il faut rallier le nord du pays, quand il faut rallier le sud en venant du nord, on est obligé de faire de longues étapes, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le plus excitant, ce genre d'étape, et en termes d'audience, c'est pas les étapes qui font le plus de téléspectateurs et d'auditeurs devant leur poste.
Oui, mais il faut tout pour faire un Tour de France. Il faut pas que des étapes de montagne, sinon on n'arriverait pas au bout. Mais bon, faut se méfier de ce qui peut être dit, parce que quand la course va vite et que ça frotte et qu'il y a des gamelles, vous entendez tout le monde dire « Ah, ça a été nerveux, ça roulait vite ». Bon, donc ils ont été stressés toute la journée. Le jour où on a une étape tranquille, bon, bah c'est quand même vachement sympa pour les coureurs. Attendez, aujourd'hui, je suis désolé, mais je suis persuadé que Jérôme serait encore dans le peloton. Alors que dans l'étape d'hier, ça n'était pas sûr.
Assurément, Cyril, c'est ce que j'ai dit en arrivant. J'ai dit, moi, aujourd'hui, je pouvais suivre. Et peut-être que toi aussi, tu pouvais suivre.
Et à mon avis, il faut une centaine de kilomètres, j'aurais pu suivre, oui. Donc, c'est quand même sympa, non? Une étape comme ça, tout le monde est joyeux dans le peloton. Tout le monde se parle. Là, effectivement, on parle de ses enfants, de la famille, de ses copines, de ses soirées d'hiver. Eh bien, écoutez, ça, c'est bon pour la convivialité, une étape comme ça.
D'accord, ok, bah, si vous le prenez comme ça, messieurs, je vais vous laisser la parole. Moi, je vais aller faire une petite sieste. Hein,
toi, Cyril, qui est un grand tacticien, on va pas jeter un pavé dans la mare dès le départ. Mais qu'est-ce qu'il fait Armindo Fonseca devant tout seul, là? Explique-moi.
Ah, là, tu me titilles là où faut pas, quoi. il fait un numéro, il habite à Rennes. Et puis, surtout, et pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'il sait qu'il y a Georges Quirino sur la moto.
Et bien sûr.
Et il faut savoir que ils viennent tous les deux du Portugal. Mais oui.
Il est d'origine portugaise.
D'origine portugaise.
Georges n'est pas portugais, messieurs. Hein.
Georges a des origines portugaises.
Ah d'accord, il est un peu tout, Georges.
Un peu portugais, un peu espagnol, un peu français.
Non, puis il a été aussi, il a vécu aussi, je crois, un peu au Maroc. Enfin, il y a... C'est un homme qui nous vient de partout, Georges. Ouais. Et bien Armindo aussi. C'est quand même un clin d'œil vachement sympa.
C'est les plus beaux, hein, les métissés. On le sait bien, on le voit avec Georges. Ah, d'ailleurs.
Bon, Jérôme, je suis désolé, j'ai pas répondu à ta question. Hein.
Non, je pense que tu avais la même réponse que moi. En gros, ça sert pas à grand chose.
Bon, Georges, quand on est portugais, on a envie de se montrer. On est quand même à deux jours d'un match de l'Euro, d'une demi-finale de l'Euro quand même. Toi, est-ce que t'as sorti ton drapeau portugais là sur la moto?
On a envie de se montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais en tous les cas, tu sais qu'on se fait la remarque chaque année avec Marco, il y a toujours énormément de supporters portugais sur le bord de la route qui viennent encourager les coureurs. C'est d'ailleurs une de nos vannes habituelles avec Marco. On salue tous les supporters portugais.
qui sont sur le bord de la route et ils sont très nombreux à encourager Armindo Fonseca. Oui, mais... aujourd'hui, évidemment, Armindo Fonseca qui, en plus d'être d'origine portugaise, mon cher Cyril, est quand même rennais. Hein, donc là, on est à côté de chez lui. Voilà, le parcours passe juste à côté. Donc évidemment, pour lui et pour cette équipe Fortuneo Vital Concept qui est plutôt d'origine bretonne, c'est peut-être important d'être visible aujourd'hui. Tu sais qu'on partage autre chose, hein, Cyril, avec Armindo Fonseca, c'est que tous les deux, on est nés le 1er mai. C'est peut-être mon frère, d'ailleurs. Ah, Armindo, je vais vérifier.
C'est la fête du travail, non ?
Ouais. Non, un an de plus. C'est la fête du travail, ouais.
Alors, Armindo Fonseca, exactement, qui est un passionné de football également, il est supporter du Stade Rennais. Il fait même partie des ultras du Stade Rennais. C'est quand même... Ah oui, non, mais ça, Jérôme, quand on
dit Stade Rennais,
ça te file des boutons, toi qui es supporter du FC Nantes, évidemment.
Exactement.
Voilà, Armindo Fonseca, Fred, tu connais un peu son pédigré. C'est un jeune coureur breton, donc, enfin rennais plus exactement, oui, qui est considéré comme un puncher plutôt. Hein.
Oui, 27 ans, c'est un coureur passe-partout. Il a un tout petit gabarit, hein, 1m68, pas plus que 58 kilos sur la balance. Un gars super sympa, qui se prend pas au sérieux, qui a une victoire principale dans son palmarès. C'était le Tour de Vendée, pas loin de chez lui, en 2014. Il a pas mal de places d'honneur, mais c'est un équipier davantage qu'un coureur qui cherche à remporter des courses. Il a également remporté une étape des Boucles de la Mayenne, course phare du calendrier français. Et
Jérôme, cher à Jacques Durand,
Jérôme et à tous les Mayennais d'ailleurs. Et il y en a quelques-uns aujourd'hui des Lavallois. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de parler et d'accueillir dans ce camion l'homme le plus rapide du monde du cyclisme. De qui s'agit-il ?
François Pervis.
Absolument, le multiple champion du monde de vitesse individuelle, de Kirin, du kilomètre, le recordman du monde du kilomètre, le recordman du monde du 200 mètres. Il est sur la zone d'arrivée ici à Angers. Et
lui, François, il aurait pu suivre aujourd'hui aussi.
Ah ouais, pas longtemps à mon avis, il aurait toxiné.
Il aurait pas toxiné quand même.
33 km 700, on le rappelle, la moyenne de cette étape sur les 123 premiers kilomètres de l'étape. On discute, on flâne, mais nul doute, comme le signalait Jérôme il y a quelques instants, que tout va s'accélérer peut-être dans les 50 derniers kilomètres, et là tout le monde sera frais et les équipes de sprinteurs feront la guerre. Ça remontera vite, mais ça nous rappelle un petit peu l'étape de Compiègne il y a quelques années quand Fabian Cancellara s'était imposé.
Allez, on va à l'avant de la course avec Georges, donc qui se trouve en compagnie, je pense, du directeur sportif d'Armindo Fonseca, donc l'homme de tête dans cette troisième étape. Georges.
Exactement, avec Roger Tréhin, directeur sportif de l'équipe Fortuneo Vital Concept derrière Armindo Fonseca. Bonjour Roger.
Bonjour.
Alors, vous êtes surpris déjà de vous retrouver seul à l'avant aujourd'hui, qu'il n'y ait pas un groupe avec Armindo qui se trouve dans une échappée solitaire, on va dire.
Ouais, c'est vrai que l'échappée de Armindo était un peu préméditée parce qu'il traverse son département, donc il avait envie de le traverser en tête. On espérait vraiment qu'il ait des copains et apparemment ce matin il n'avait pas beaucoup de copains.
Bon, c'est une étape forcément un peu particulière là, avec ce genre de registre, avec le peloton qui laisse beaucoup d'avance. Comment vous êtes dans la voiture derrière lui là, qu'est-ce que vous lui dites?
Je lui dis de profiter du moment, il traverse son département, il traverse des régions ou des villages sur lesquels il a couru quand il était gamin. Il voit énormément de personnes qu'il connaît, donc il en profite. Et puis après on verra pour la suite. On se doute bien que le final va être beaucoup plus rapide et qu'on se dirige vers un sprint massif vu que les équipes commencent déjà à s'organiser. Mais il en profite et puis il déroule, on va dire.
On vous a vu, votre équipe, tous les jours à l'avant depuis le début dans l'échappée du jour. C'est important pour une équipe comme vous qui est invitée également sur le Tour de France aussi d'être visible, on va dire, sur la grande boucle.
Sur toutes les courses, hein, depuis le début de l'année, on a un esprit assez offensif. Et sur le Tour de France, encore plus, hein, on est une équipe invitée, on doit se montrer. Et on doit aussi essayer de trouver des opportunités de victoire, hein, comme ça a été presque le cas hier où à 10 km de l'arrivée, on a commencé à y croire un peu. Donc on sait très bien qu'en force, on aura du mal à gagner, mais avec un petit peu de tactique, on a des chances de s'ouvrir des portes vers des victoires.
Super, merci beaucoup Roger Tréhin, directeur sportif de cette équipe Fortuneo Vital Concept derrière l'homme seul depuis le début de cette étape. C'est Armindo Fonseca.
Merci Georges. Alors on va vous mettre à contribution, hein, messieurs les tweetos sur le hashtag RMC Live. Venez nous donner le nom de l'épisode du jour, hein, si vous n'êtes pas en train de faire la sieste. Et on va demander également à toute l'équipe de l'intégrale de préparer un petit nom pour cette troisième étape du Tour de France, donc entre Granville et Angers. Et puis on va revenir dans quelques instants sur l'étape d'hier où il s'est passé beaucoup de choses. Également au programme cet après-midi, Wimbledon, puisqu'il ne pleut pas sur Londres aujourd'hui, sur Wimbledon, dans la banlieue sud-ouest de Londres. Eric Salio est là-bas tranquillement. Je ne sais pas s'il fait la sieste avec quelques fraises à la crème cet après-midi. Salut Eric.
Salut Christophe. Non, je suis aux affaires depuis assez longtemps, puisque les parties ont débuté tôt. Et on suit évidemment avec beaucoup d'intérêt Nicolas Mahut, qui est opposé sur le cours 18. Ça lui rappelle les souvenirs de Isner. Il est opposé à Sam Querrey. 1-7-0 pour l'Américain. Et là, on va disputer le tie-break dans la deuxième manche. Autant vous dire que c'est un moment important pour l'Angevin. Il doit absolument recoller au score. Sinon, j'ai peur que l'Américain Sam Querrey, qui a fait tomber Novak Djokovic au tour précédent, s'envole. Donc un moment important pour Nico Mahut, qui est pas forcément au mieux, notamment au service. On n'a pas l'impression qu'il affole les radars, mais bon, il n'est pas encore complètement largué dans cette partie. Ça va donc se jouer dans ce tie-break sur le central. 2-7-0 pour Roger Federer, 6-2-6-3 face à Johnson. Et puis déjà un qualifié pour les huitièmes, c'est Marin Cilic, qui a profité de l'abandon de l'éternel blessé Kei Nishikori.
Très bien Eric, on t'attend évidemment tout au long de l'après-midi, et puis pour nous faire vivre notamment ce match qui nous excite entre Joe Wilfried Tsonga et Richard Gasquet. Ce sera un petit peu plus tard. 15h23, vous êtes sur RMC, c'est l'intégral tour. On est encore à 108 km de l'arrivée. 108 km, vous imaginez, ça va arriver au-delà de 18h cette histoire. 3 minutes 20 d'avance pour l'homme de tête Armindo Fonseca, le jeune français de la formation Fortuneo Vital Concept. À tout de suite, on va revenir dans quelques instants sur l'étape d'hier où il s'est passé beaucoup de choses. À tout de suite.
RMC Tour de France 2016. RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France, troisième étape de la Grande Boucle aujourd'hui sur les routes d'Ille-et-Vilaine, puis de Mayenne et de Maine-et-Loire pour terminer cette étape tout à l'heure, puisque cette troisième étape s'achèvera dans les rues d'Angers. Mais elle va arriver, on vous le répète, assez tard, puisque on prend son temps et ça n'a pas l'air vraiment du tout d'accélérer. On va faire un nouveau point sur la course avec Fred, même s'il ne se passe pas grand-chose. Mais enfin, pour ceux qui nous rejoignent maintenant ou qui se réveillent de leur sieste, bah soit vous y retournez à la sieste, soit vous écoutez Fred, puisque c'est l'heure du Top Course.
Avec une situation simplissime, on a passé la mi-course depuis très peu de temps maintenant dans cette étape marathon, la troisième étape du Tour de France 2016 entre Granville dans la Manche et Angers, la capitale du Maine-et-Loire. Un seul homme en tête alors qu'il reste 106 km à parcourir sous le ciel gris des Pays de la Loire. Un homme seul en tête, il est rennais, il s'appelle Armindo Fonseca, il a 27 ans, il est français et donc porte les couleurs de la formation Bretagne Séchée, c'était l'année passée. Elle est désormais baptisée Fortuneo Vital Concept. Allons-y. 3 minutes 59, 4 minutes maintenant d'avance pour l'homme seul en tête. Le peloton est conduit par le maillot jaune, l'emblème du peloton en ce moment, le champion du monde, Peter Sagan, qui discute avec Marcus Burkhardt, l'allemand de BMC. Tout le monde flâne. On n'a pas dépassé les 34 km/h de moyenne depuis le début de l'étape.
Alors, tu le disais, Peter Sagan, maillot jaune de ce Tour de France. Et hier, le maillot jaune était sur les épaules d'un certain Mark Cavendish qui a un message à te faire passer. Fred, on va l'écouter, Mark Cavendish. Eh oui.
Say in French, bon anniversaire, Fred.
Fred. Yeah. Bon anniversaire, Fred.
Et oui, c'est l'anniversaire de Fred. Alors, on n'a pas l'habitude de fêter les anniversaires sans date, mais là, c'est quand même un anniversaire exceptionnel, puisque figurez-vous que notre ami Fred Adam a enfin, à l'âge de raison, 40 ans.
Oh
40
non
années, mais oui, mais
oh
oui,
non
le vieux.
Non, évidemment, c'est de l'intox. Ça n'a rien à voir avec
en
ça.
En français, Cavendish, s'il te plaît.
Ah ouais, en français, hein.
Pour toi.
Il le faisait il y a quelques années de glisser quelques mots dans les interviews, mais il a eu quelques problèmes.
Quelques consignes aussi, on lui a dit.
Il a eu maille à partir avec la France à une époque, et depuis, il ne s'exprime qu'en français avec ce fucking accent.
Ouais. On y reviendra là-dessus.
Oui, on y reviendra. Parce que tu l'as rencontré justement ce matin, on va en parler tout à l'heure. Marc
Cavendish, dont tu as été l'équipier et qui restait un super ami à toi, Jérôme.
Bien sûr, ouais, c'est l'une des plus belles rencontres dans ma carrière. Tu sais, on fait beaucoup de courses, on passe beaucoup de temps ensemble et c'est vrai que dans ta carrière, tu croises des personnes avec qui tu gardes des affinités, d'autres pas. Et c'est vrai qu'avec Marc, on s'est vraiment liés d'amitié. On a passé une grande année aussi. Hein, on a gagné beaucoup de courses. On a gagné 6 étapes sur le Giro, 4 étapes sur le Tour de France. Donc forcément, ça crée des liens. J'étais le coureur qui allait rouler en premier quand Marc avait décidé de gagner. C'est vrai que on passait beaucoup de temps à discuter. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très sympathique, qui a le cœur sous la main. Et je l'ai dit l'autre jour, il fait partie de cette race que j'appelle les seniors, qui savent récompenser comme il se doit les équipiers. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup. Et on a vraiment ce lien spécial. Alors dans la tête de certaines personnes, il existe un Cavendish, et dans ma tête et dans ce qu'il est vraiment, il en existe un autre. On essaiera de l'expliquer plus tard. Et je l'ai croisé ce matin, effectivement. Il est tout autre que qu'en 2008, il a débarqué sur le Tour en gagnant 4 étapes et en étant un peu en étant un peu virulent envers la France parfois, mais il a bien changé.
C'est une vraie personnalité. Tu l'as rencontré tout à l'heure. On écoutera l'interview tout à l'heure en longueur, donc de Marc Cavendish, qui a quand même tenu à souhaiter son anniversaire à Fred.
Merci, Cyril
Guimard, toi qui connais quand même Fred depuis. T'avais pas encore de cheveux blancs.
C'est mon papa. C'est mon père. C'est un coming out que je fais cet après-midi. Cyril est mon père.
Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Fred, Cyril? Tu trouves qu'il a progressé quand même là depuis quelques années, ou il reste quand même moyennasse?
Sur certains plans, il a progressé, mais vous savez, pas au niveau de la raison.
Ah oui, non.
Vous savez, il y a
l'âge de raison, mais ça, je pense qu'il n'atteindra jamais.
Vous savez, comme on dit, on a un dicton là du côté de Redon. Il a plus d'âge que de raison.
Ça va commencer à être le cas, t'as raison. Jamais la raison, jamais, vous m'entendez. Merci en tout cas, c'est un beau cadeau. C'est vrai que Marc Cavendish et Jérôme Pinault sont très liés. On l'a vu, le cave, l'homme de l'île de Man, tombé dans les bras de Jérôme Pinault il y a quelques jours au centre de presse en permanence. Ils échangent des textos quotidiennement, Jérôme et Marc. Cavendish qui fait partie de ces champions qui apprécie des équipiers parce qu'ils ne sont pas susceptibles de leur faire d'ombre, hein,
sais notre histoire avec Marc Cavendish, ça ressemble un peu avec mon histoire avec Frédéric Adam finalement, parce qu'au départ ça a commencé par une grosse prise de bec. On s'est bien pourri sur le vélo.
Tu as collé une à lui aussi?
Ah non, lui j'aurais pas osé. Autant Adam me faisait pas peur, autant. Et puis finalement, tu vois, on s'est lié d'amitié. On va peut-être s'échanger quelques textos.
Ah, je pense qu'on est
bien parti.
On va annuler quelques chambres en fin de Tour de France. Chambre commune.
Non, vous allez pas nous faire de petits tous les deux. C'est pas possible.
Petite question à Jérôme. Comment il fait pour gérer d'un côté son ami Coquart et de l'autre son ami Cavendish? Est-ce qu'il a des révélations à faire à l'un par rapport à l'autre en cas d'arrivée au sprint?
Écoute, déjà je me sers beaucoup de l'histoire de Marc et de sa façon d'aborder les sprints et de sa façon de commander son train pour donner tous ces conseils-là à Brian, forcément.
Alors
on
va le répéter au cave, hein, comme ça.
Il le sait. Tu verras dans le petit entretien qu'on a fait tous les deux ce matin, je lui en ai parlé de Brian Coquarnan. Ils viennent tous les deux de la piste d'ailleurs, donc Marc a beaucoup de respect pour Brian, notamment pour son palmarès sur la piste. Mais bien sûr qu'on discute tous les deux avec Brian de tout ça, de ce que j'ai vécu moi, de comment je vois les choses, et je me sers forcément beaucoup de l'expérience que j'ai acquise à ses côtés, parce que ça reste pour moi le plus grand sprinter actuel et au palmarès, mais aussi dans les faits, parce que c'est qu'un gars qui, quand il a décidé de gagner, il le dit, il le répète, les 200 derniers mètres c'est son jardin, il se transforme, et j'aspire à ce que Brian deviennent pareil, un vrai tueur dans les 200 derniers mètres.
Voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait la même personnalité l'un et l'autre. Brian a l'air beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux que
Marc. Marc est un vrai gentil, mais sur le vélo, il ne fait pas de cadeaux, c'est sûr.
C'est sûr qu'il ne fait pas de cadeaux. Très bien, dans un instant, on va revenir sur ce qui s'est passé hier dans cette très belle étape qui s'achevait à Cherbourg. Auparavant, nous allons faire un nouveau détour par Wimbledon, où les matchs se poursuivent, avec beaucoup de Français sur les cours aujourd'hui, mais le premier d'entre eux est
mal embarqué. C'est Nicolas Mahut, Eric Salio qui vient de perdre, je crois, le deuxième set.
Ouais, 2-7-0 désormais pour Sam Querrey, le bourreau de Novak Djokovic au troisième tour de ce Wimbledon. Et l'Américain surfe sur cet exploit. Il mène désormais donc 2-7-0, 6-4, 7-6. Pourtant, Nico avait fait le mini-break dans ce tie-break, mais il n'a pas pu tenir cet avantage. Et c'est vrai que Querrey sert remarquablement. Il est à 95 ou 96% de points inscrits derrière la première balle. Donc c'est très compliqué pour l'Angevin. Sur le central, 2-7-0, toujours pour Federer qui se trimballe, 6-2, 6-3. 4 partout dans le troisième set. En cas de victoire, le Suisse affrontera Marin Cilic, qui a profité de l'abandon de Kei Nishikori. Et donc on attend que Lucas Pouille et que Joe Tsonga et Richard Gasquet arrivent sur les cours. C'est pas pour tout de suite.
Merci Eric, à tout à l'heure donc pour la suite de ces matchs à Wimbledon. Allez, tout de suite on va revenir sur ce qui s'est passé hier. C'était précédemment dans l'intégral tour, la deuxième étape du tour qui s'achevait hier à Cherbourg avec la victoire d'un certain Peter Sagan.
RMC, précédemment dans l'intégral Tour de France.
Crevaison de Richie Porte à 5 km de l'arrivée. Le leader australien de la formation BMC est en train d'être dépanné par la voiture neutre. Un dépannage qui prend beaucoup
très,
de temps.
Très long, très long.
Après la chute d'Alberto Contador, qui n'a occasionné aucun retard au classement général hier, eh bien, Richie Porte est en train de perdre gros dans le final de cette deuxième étape.
Steven va être repris dans quelques instants. C'est terrible, Fred. C'est terrible pour Steven.
Jesper Stuyven qui passe en ce moment même sous la flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Peter Sagan est en train de regarder ce que fait Alaphilippe. Alaphilippe qui lance à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Julien Alaphilippe débordé apparemment par Michael Matthews. Et non, il est plus fort. Mais Peter Sagan avait gardé une cartouche. Peter Sagan qui va tenter de le déborder et qui s'impose le champion du monde. Qui devance Julien Alaphilippe et Alejandro Valverde. Voilà un trio royal.
RMC Tour de France 2016.
Voilà, la deuxième étape du Tour de France et la victoire de Peter Sagan hier. On va y revenir. Peter Sagan qui, pour la première fois de sa carrière, porte aujourd'hui le maillot jaune de leader du Tour de France. Peter Sagan qui, rappelez-vous, l'année dernière, sur les routes de ce Tour de France, avait vraiment pas beaucoup de bol, il faut bien le dire, Fred. 5 fois deuxième de plusieurs étapes. Et puis, depuis, bah, il a réappris à gagner avec une année exceptionnelle. Le titre de champion du monde, la victoire également dans le Tour des Flandres. Et aujourd'hui, il est encore plus exceptionnel qu'il ne l'était les années précédentes.
Oui, et au-delà du palmarès, il y a une attitude, il y a un charisme que Peter Sagan affirme, assume aux yeux de tout le monde. Et il fait carrément l'unanimité. De mémoire de suiveur, je suis pas sûr qu'on retrouve aussi facilement quelqu'un qui ait fait autant l'unanimité en gagnant. Les losers, les perdants magnifiques qui ont l'adhésion de tout le monde, ça existe, mais ceux qui trustent les victoires, et ben en général, ils s'attirent les foudres des uns et des autres. Là, ce Peter Sagan, 26 ans, Slovaque, capable de tout faire sur un vélo, que ce soit de rouler en wheeling ou d'amener le pion au meilleur vététiste, n'importe quoi d'autre, de sauter les haricots, de sauter d'un trottoir à la chaussée et vice-versa. Il sait tout faire, il sait sprinter, il sait attaquer, il sait parfois grimper quand il le faut. C'est un passe-partout, mais surtout un super talent. Effectivement, ce titre de champion du monde à Richmond, où il s'était quasiment livré un striptease à l'arrivée des championnats du monde, en lançant casque, lunettes, gants, en balançant son vélo qui coûte plus de 10 000 euros et qui avait été réceptionné par l'un des membres de l'UCI. Il avait fait le show, il avait tapé dans les mains de tous les coureurs qu'il avait battus juste après la ligne d'arrivée. Eh bien, aujourd'hui, il est capable de faire ce show partout où il va. Vous parlez tous du Tour des Flandres et c'est normal, c'est son grand chef-d'œuvre de l'année. Mais il y a eu récemment un numéro réalisé par Peter Sagan, maillot de champion du monde sur le dos, sur le Tour de Suisse, un final d'étape particulièrement escarpé, humide, il pleuvait, il y avait des coureurs devant, il est revenu quand il a voulu. Tout le monde savait que que dans la dernière bosse, il serait l'homme à surveiller. Il a accéléré comme il a voulu. Il a basculé avec 2-3 longueurs d'avance sur la concurrence. Et dans la descente, et ben c'est comme dans la côte de la Rochette l'an passé en direction de Gap quand il s'était incliné devant Ruben Plaza. Il a fait un festival et sur les trajectoires, il est imbattable. C'est le cas sur le vélo et en dehors du vélo. On l'a encore vu sur le podium lorsqu'il a mis le maillot jaune hier. Tout était préparé. Il a sorti un mini maillot de champion du monde pour bien rappeler que oui, il avait le maillot jaune sur le dos, mais que son titre à lui cette année, c'est champion du monde, rien d'autre. Il sait tout faire et il a une gueule d'ange que tout le monde adore, des anciens aux nouveaux suiveurs, qu'ils soient masculins ou féminins, croyez-moi.
On va en reparler évidemment de Peter Sagan, on demandera l'avis à toute la Dream Team cyclisme Tour de France ici. On va l'écouter tout d'abord, Peter Sagan, donc hier à l'issue de cette deuxième étape, de cette victoire et de ce maillot jaune qu'il porte aujourd'hui. Il est content d'avoir le maillot jaune, Peter ?
Je suis très content d'avoir le maillot jaune parce que c'est le premier de ma vie. Et je peux le conserver pour, je sais pas, un jour, deux jours, trois jours. Je cours après ce genre de maillot toute l'année et oui, je suis vraiment content. Merci à tous mes coéquipiers qui ont fait un super travail. Roman Kreuziger a été incroyable dans la dernière montée.
Voilà, Peter Sagan que Georges Quirino a rencontré d'ailleurs ce matin. Toujours aussi des contracts, Peter, le maillot jaune sur les épaules, Georges.
Même avec le maillot jaune sur les épaules et toujours comme hier soir, on l'a entendu à l'instant, toujours avec cette phrase quand il arrive devant les journalistes. I'm very happy. Il est toujours très content. Peter, mais c'est vraiment ce ton-là. Il a un maillot jaune où il n'y a pas le liseré de champion du monde. On se rappelle que Torrechov avait porté le maillot jaune avec les liserés de champion du monde au niveau du sponsor. Il l'a pas, mais en tous les cas, il était très détendu ce matin. Il y avait beaucoup de caméras devant le bus de l'équipe Tinkoff. Il était interrogé par des journalistes qui lui demandaient mais alors pourquoi est-ce que vous faites ça tout le temps, toutes ces pitreries. Il dit non mais attendez, mais dans ce milieu, tout est beaucoup trop sérieux. Donc moi j'aime bien m'amuser. Moi j'ai qu'une vie. Alors voilà quoi. Puisque j'aime bien m'amuser, je vais faire ça. Et puis voilà. Enfin, Sagan, c'est en plus quelqu'un de très disponible, c'est peut-être un des coureurs les plus disponibles pour le public. À chaque fois qu'il descend du bus, il y a beaucoup de personnes qui l'appellent, mais dès qu'il y a un gamin qui a entre 5 et 6 ans qui l'appelle, il y va tout de suite avant même d'aller voir les journalistes pour signer un autographe, pour se prendre en selfie. Vraiment, il adore faire plaisir aux enfants qui sont là pour le voir et qui le voient vraiment comme une superstar. Il avait une belle habitude sur les courses flandriennes, c'était de descendre du bus avec la musique de Star Wars. Malheureusement, il l'a pas sur le Tour de France. Donc, on va voir s'ils vont pas le remettre dans les prochains jours. Tellement ça avait bien marché pour lui, ça a évidemment fait le buzz et c'est ce qu'il fait toujours, Peter Sagan. Mais on n'a jamais trop l'impression que c'est préparé aussi. C'est très naturel aussi chez lui de faire ce show là.
Oui, c'est ça. C'est pas calculé, hein, Jérôme. Il fait ça naturellement et il fait beaucoup beaucoup de bien au cyclisme, à l'image du renvoyer vers le grand public.
Exactement. Quand il s'est imposé l'an dernier à Richmond lors du championnat du monde, tout le monde a dit et il a fait l'unanimité pour dire que c'était un vrai vent de fraîcheur et un vrai grand bien pour le cyclisme mondial. C'est un garçon qui casse les codes, la malédiction du maillot irisé, du maillot de champion du monde. Lui, il en a rien à faire. Il gagne avec, il s'impose et avec la manière sur toutes les courses. Il fait le show. Mais il gagne des courses, c'est ça le gros la grosse différence avec Peter Sagan. Parce que dans ce milieu, c'est vrai que dès qu'on sort un peu des sentiers, dès qu'on fait un peu des choses originales, on revient sur toi, on tombe dessus, on dit arrête de chanter, arrête de danser, gagne des courses, t'es payé pour gagner des courses. Mais lui, on peut rien lui dire, puisque lui, il chante, il danse, il fait des strips, il fait des wheelings, il va voir les jeunes garçons, il signe des autographes, et à côté de ça, il gagne tout. Et il gagne avec une certaine aisance en plus. Alors parfois, pour ce qu'on a pu prendre finalement pour de l'arrogance à une certaine époque, ça se traduit par aujourd'hui une décontraction, une classe. Et je peux vous dire que ça fait énormément de bien au cyclisme qui a besoin de modernité.
Est-ce qu'il a des ennemis dans le peloton ? On entend beaucoup de coureurs qui disent « Putain, Sagan, c'est un super produit marketing, il nous fait du bien à tous. » Est-ce qu'on est passé au travers de certains échos négatifs qui pourraient exister ?
J'ai jamais vraiment entendu quelqu'un critiquer Sagan. Alors si, peut-être une année où sur le Tour de France il s'imposait et il faisait ses petits signes, vous savez, il a fait
Chicken.
Le coq, il a fait Forrest Gump. Peut-être que des garçons comme Cancellara, on l'a pris un peu comme
les barons
un
du
peu
cyclisme.
Chambrage, voilà. Mais ce sont des gens qui sont de l'ancienne génération, presque de la mienne, donc je peux me permettre. Mais vraiment des gens qui critiquent Sagan et qui n'aiment pas Sagan, j'en trouve pas beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont couru à ses côtés chez Liquigas avec Quinziato, avec Pippo Pozzato, qui est aussi lui un showman. Murilo Fischer, qui est aujourd'hui à la FDJ, ce sont des gens qui ont côtoyé Sagan à ses tout débuts de carrière, et ils le disent tous à l'unanimité, c'est un super bon mec, et il n'a pas changé depuis qu'il est arrivé chez les pros, il a toujours fait comme ça, il a toujours pris ça avec le sourire et beaucoup de plaisir.
Georges, tu voulais ajouter un mot?
Oui, parce que j'entendais Jérôme dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe. On va mesurer nos propos quand même, Jérôme.
Oh, la main aux fesses aux
hôtesses. Non, il a mieux.
En zone d'interview l'année dernière, une journaliste japonaise lui demandait à Peter quel était son secret. Il avait répondu « My big balls ». En gros, c'est grosses parties intimes. Ça lui a été rappelé encore en début du Tour de France. On lui a demandé dans quel état d'esprit il était cette année, quel allait être son secret. Et ben, il nous a dit que son secret, c'est que ses parties intimes étaient encore plus grosses cette année. Donc,
tu sais, ça, c'est classe. Voilà.
Mais c'est pas toujours la grande classe. Hein.
C'est dans l'humour, tu sais. Certaines personnes trouvent ça choquant, moi pas. Hein, tu sais, certains ont perdu la boîte où étaient ces big balls. C'est ferait bien de la retrouver parfois. Ça serait un peu plus fait.
On va demander si.
Mais tu sais que là où il est super classe aussi, je voudrais juste rajouter ça. Quand il a été champion du monde à Richmond, tout le monde attendait qu'il fasse le pitre en zone d'interview et en conférence de presse. Et la première chose qu'il avait dit, d'ailleurs, ça avait un peu surpris tout le monde, c'était oui, je suis champion du monde, c'est bien et tout, mais avant tout, j'ai une pensée pour tous ces migrants actuellement en Europe qui vivent des moments difficiles. Donc, il avait aussi un moment comme ça de recul, un peu d'ambassadeur, où il s'est dit, d'un coup, je représente quelque chose, je suis champion du monde. Et sa première pensée devant les journalistes, ça avait été ça.
Très bien. Et alors, si vous voulez voir de quoi est capable notre ami Peter Sagan, je vous conseille d'aller sur YouTube, aller voir la vidéo, l'espèce de parodie qu'il a fait de Grise avec sa fiancée, avec sa femme, avec son épouse. C'est assez exceptionnel. C'est vraiment bien fait. Vous tapez Grise Peter Sagan, vous allez trouver tout de suite cette histoire sur YouTube. Voilà, on va s'intéresser à la course à nouveau dans quelques instants, évidemment, Fred, puisque nous sommes encore à 96 km de l'arrivée de cette troisième étape et que notre ami Fonseca a toujours 4 minutes 36 d'avance. Allez, tout de suite, le top course dans un instant, tous les cas.
Sur la route du Tour aussi, ERDF devient Enedis. L'étape du jour avec Enedis, l'électricité en réseau. 32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC.
Voilà Fred, c'est à toi. Tu vas nous faire un point très complet de la situation.
Quasiment
100 km de l'arrivée.
Ah oui, très complet, parce que c'est vrai que la situation de course est très compliquée. Il va falloir la détailler en recoin. Un seul homme en tête, Armindo Fonseca, il est rennais, il porte le maillot vert et noir de l'équipe bretonne Fortuné au Vital Concept, et à 95 km de l'arrivée, sur ses routes d'Ille-et-Vilaine, ses routes d'entraînement, lui qui est rennais, eh bien il compte 4 minutes 30 d'avance sur un peloton qui le laisse filer complètement. On continue de discuter, ça nous rappelle cette étape il y a quelques longues années, il me semble que c'était en 2007, je crois, la victoire de Fabian Cancellara à Compiègne. C'était en 2007, effectivement, où on s'était ennuyé sévère pendant 5-6 heures avant le final de l'étape, où Cancellara avait démarré, lui qui avait le maillot jaune sur le dos. Peut-être aurons-nous un final en tout point similaire tout à l'heure dans cette belle ville d'Angers. Angers, où l'on attend probablement une arrivée massive tout à l'heure, puisque le dernier vainqueur ici, c'était en 2004, s'appelle Tom Bonnen, et mes recherches personnelles, pour remonter au dernier vainqueur en solo ici à Angers, c'était un Italien en 1960. Aujourd'hui, ce sera a priori arrivée massive, et pourquoi pas voir le maillot jaune d'Amel Pion aux spécialistes du sprint massif que sont Cavendish, Greipel, Kittel, Alexander Kristoff ou Brian Coquard, parce que Sagan roule en ce moment, pédale sur coussin d'air. Peut-être une deuxième victoire en deux jours pour le maillot jaune. 95 km de l'arrivée, Fonseca avec 4 minutes d'avance sur le peloton.
Et on retrouve l'intégral tour dans quelques instants, tout de suite.
RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La troisième étape du Tour de France, alors qu'on vient de voir une image étonnante qui nous arrive ici dans notre petit car régie. Tom Dumoulin, coureur hollandais, qui a fait semblant de bâiller. Bah oui, on s'endort un peu sur la route du Tour aujourd'hui, puisque le peloton prend son temps pour rallier Angers. Il reste 93 km 500 à parcourir et nous avons donc toujours un homme en tête, Armindo Fonseca de la formation Fortuneo, qui compte 4 minutes 30 d'avance sur le peloton, qui a décidé aujourd'hui de roupiller tranquillou sur cette troisième étape du Tour de France. On va dans un instant faire un point complet, mais enfin il n'y a pas grand chose à dire sur le point complet. Donc messieurs, on va en profiter pour retrouver l'un des membres éminents de l'Intégral Tour, un certain Dédé. Et oui, il est de retour, Dédé. Il est enfin arrivé avec son gros nom. Dédé de l'Assemblée des départements de France, celui qui se promène sur les routes avec un gros camion qui enlève les petits cailloux qui se trouvent sur la route, qui empêche la route de se désagréger, qui l'arrose. Voilà, c'est très très écolo ce qu'il fait, notre ami Dédé. Il est avec nous, on est ravis de le retrouver. Comment ça va, André ?
Ça va très bien, bonjour à tous. Ravi de retrouver tout le monde. Et moi aussi, je roule très lentement aujourd'hui. Je me suis calé sur le rythme de la course. Donc, c'est largement le temps de faire un peu de tourisme.
Bah oui, c'est bien. Tu t'arrêtes évidemment dans toutes les bonnes échoppes pour amener ce qu'il faut. Hein. Puisqu'on n'a plus la Lucho Mobile cette année. Donc, on compte sur toi pour nous ramener quelques produits de qualité.
Il va y en avoir. Il va y avoir du fromage de chèvre bientôt, je pense.
Bon.
Avant la montagne.
Dédé, évidemment, oui. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de reçuage, donc on ne va pas parler de reçuage. Il n'y a pas beaucoup de cailloux sur la route, donc on ne va pas en parler non plus. Donc on va peut-être parler de la signalisation, qui est quand même une signalisation très spécifique sur les routes du Tour. Il y a des panneaux qu'on ne connaît même pas, nous. Le code de la route, on ne les connaît pas. Ces panneaux, vous les posez avec tes équipes tout au long de l'étape. Et c'est un énorme boulot parce qu'il y a un paquet de panneaux à poser sur le bord des routes. Hein.
Ah oui, puisque sur l'ensemble du tour, on est à peu près sur 3700, 3800 panneaux qui vont être posés, qui sont des panneaux qui indiquent à la course, aux suiveurs, la manière d'emprunter ce qu'on appelle les points durs, en particulier les ronds-points. Alors, dans la vie de tous les jours, on les prend en France par la droite. Mais sur le tour, on peut les prendre des deux côtés, on peut les prendre d'un seul côté, mais on peut les prendre à l'envers. Et il faut indiquer à l'ensemble des suiveurs la manière d'emprunter ces giratoires de la façon la plus subtile, en suivant en particulier les trajectoires. Donc l'idée, c'est d'avoir une panneautique de panneaux qui soit adaptée au passage d'une course comme le Tour. C'est qu'on a des panneaux sur les ronds-points, bien sûr, les rétrécissements qui sont indiqués avec une pré-signalisation pour que tout le monde arrive à fluidifier le trafic et que le peloton ne se retrouve pas bloqué au moment d'un rétrécissement. Même chose aussi sur les ralentisseurs qui se développent de plus en plus, puisque il y a quelques années...
André, on va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on t'entend malheureusement assez mal. Hein, la liaison n'est pas terrible.
C'est pas bon. Bon. Et ben, en gros, on a également les ronds-points qui sont marqués, mais aussi les rétrécissements, les passages à niveau. Bref, c'est une vingtaine de modèles de panneaux, ces panneaux jaunes, que l'on voit sur l'ensemble de l'itinéraire et qui sont placés le matin. Pour info, ce matin, à 3h30, les équipes étaient déjà en place pour placer les premiers kilomètres. Donc c'est un très très gros boulot. C'est grosso modo ce qu'on appelle un point dur, un danger, tous les kilomètres sur le Tour de France.
Évidemment, donc ça fait du boulot, hein. Ils bossent les gens de l'Assemblée des départements de France. Et oui, ça rigole pas. Un tout petit mot, Dédé, puisque on est passé tout à l'heure à Villedieu-les-Poêles, où on fabrique pas des poêles, mais on fabrique des bourdons, des cloches. Raconte-nous de quoi il s'agit. C'est quoi ? On fabrique des bourdons maintenant.
Oui. Alors c'est ce qu'on appelle la capitale du cuivre. C'est comme ça qu'il se nomme les habitants de cette ville qu'on appelle les Sourdins. Et c'est à cet endroit, dans cette ville, que sont fabriquées, en particulier dans cette ville, que sont fabriquées des cloches. Et c'est là où ont été fabriquées en 2013. Je vous les cite parce qu'ils ont des prénoms. Elles ont des prénoms, ces cloches. Gabriel, Anne-Geneviève, Denis-Marcel, Étienne, Benoît-Joseph, Maurice et Jean-Marie, qui sont les nouvelles cloches qui ont été placées à Notre-Dame, qui ont été inaugurées en 2015. Donc ces cloches ont été fabriquées à Villedieu-les-Poêles. Il n'y en a qu'une qui n'est pas été fabriquée à Villedieu-les-Poêles, c'est Marie. C'est le petit bourdon, elle a été conçue aux Pays-Bas. Et la dernière, c'est Emmanuel, Lui, c'est un Fadiez de 13 tonnes qui a 330 ans d'âge. Et lui, comme il était assez costaud, il a été laissé à Notre-Dame, à la cathédrale. Mmh. Celui-là n'a pas bougé. En tout cas, c'est un endroit où on fabrique les cloches de façon ancestrale avec.
Il y a d'autres endroits où on fabrique des cloches. Hein. Nous, on en a aussi. On en a pas mal ici.
Hein.
On en a récupéré quelques-unes. Ouais.
Oui, il y en a même quelques-uns dans l'équipe qui coulent des bronzes. Hein.
Fred. Oh, mais ça, il y a 40 ans, il se lâche. Merci, Dédé. On t'entend vraiment mal. On va être obligé de couper et on essaiera de t'appeler évidemment tous les jours pour que tu nous racontes comme ça la vie de la route, la vie de la route du Tour de France. Merci, Dédé, avec le gros Léon. Il est quand même arrivé sur le Tour de France quand même. Il est arrivé avec un peu de retard. Mais il est là, notre ami Dédé. Alors, vous savez, je vous ai demandé de trouver un nom à l'étape du jour. Bon, il n'y a pas grand chose. Il y a quelques propositions qui sont arrivées. Il y a aussi quelques réflexions. Florian Pinet nous dit, par exemple, même un épisode de Derrick avance plus vite que l'étape du jour. C'est vrai qu'il n'a pas tort, notre ami Florian. Et puis, je vous donnerai donc les noms dans quelques instants pour l'épisode du jour. On vous rappelle qu'on est à 90 km de l'arrivée et que désormais, notre ami Fonseca possède 5 minutes d'avance sur le peloton arrivé prévu au-delà de 18h. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'intégral tour de cette troisième étape du tour.
Toutes les émotions du cyclisme sur RMC avec Bricoman.
RMC, Intégral Tour.